VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, 13h à Washington, 18h à Kinshasa. Bonsoir, bienvenue. Nouveau massacre à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la nuit malgré l'opération Ville Morte illimitée lancée par la société civile contre l'insécurité dans la région. Le point avec Eddy Sangou.
Les habitants de Beni ont manifesté mardi matin pour protester contre ce nouveau massacre interrompant brièvement la Ville Morte illimitée. La police a tiré en l'air pour disperser les protestataires selon un témoin contacté par VOA Afrique. Les 6 victimes ont été abattues à Kalongo, un quartier situé près de l'aéroport de Mavivi, par un groupe d'hommes en uniforme militaire armé de machettes et autres armes blanches. L'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda, a attribué l'attaque aux ADF. Selon lui, l'armée est intervenue lundi soir et a pourchassé les assaillants qui sont rentrés dans la forêt. La société civile dénonce l'insuffisance d'action contre les massacres répétés dans la région de Beni. Selon Kizito Hang de l'ONG Asado à Beni, la société civile exige un changement du commandement de l'offensive de l'armée à Beni. La mission des Nations Unies au Congo avait aussi formulé presque les mêmes exigences, accusant les officiers à la tête de l'offensive de l'armée congolaise dans la région de graves crimes. Le gouvernement n'a pas cédé et depuis, l'armée congolaise mène seule l'offensive contre les groupes armés.
Un jeune manifestant a été tué aujourd'hui à Bujumbura où les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza continuaient de manifester à la veille d'un sommet régional à Dar es Salaam qui, il espère, va convaincre le chef de l'État de renoncer à sa candidature, Idriss Fall.
Un manifestant a été tué par balle aujourd'hui dans le quartier Buterere près de l'aéroport de Bujumbura. 2 autres personnes sont mortes cette nuit suite à l'explosion d'une grenade dans une maison de Kanyosha. Ce quartier a souvent été le théâtre d'affrontements avec les Imbonerakure, une milice proche du pouvoir. La crise a déjà fait au moins 20 morts. Les chefs d'État de la communauté est-africaine se réunissent demain à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter de trouver une solution. Linda Greenfield Thomas, la dame Afrique du département d'État américain, va participer à ce sommet. Washington est contre la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. L'Union européenne a suspendu son soutien financier au processus électoral et demande un report des élections. Mais le président burundais a lancé hier la campagne du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, en vue des législatives du 26 mai qui seront suivies un mois après par l'élection présidentielle.
Recouvert d'un drap, le corps de la victime, Amissi, âgé de 24 ans, a été porté devant la maison du maire du quartier Pauline Rouratoye par une centaine de manifestants réclamant que l'édile organise les funérailles dispersées par les policiers. Les manifestants portant le corps sont revenus à la charge et ont pillé la maison du maire ainsi qu'un véhicule de la commune. 19h à Bujumbura, Mali, 8 militaires tués lundi dans le nord-ouest du pays, dans une embuscade tendue par la rébellion à dominante Touareg, non loin de Tombouctou. Selon Yaya Tandina, journaliste à l'ORTM, la radio nationale malienne, il s'est agi d'une embuscade contre un convoi de l'ONU.
Les dégâts ont été nombreux. Nous avons remarqué la disparition de 2 véhicules. Un véhicule sur le terrain brûlé. Ensuite, il y a eu 8 morts, 11 blessés. Et l'armée malienne, de son côté, a fait aussi un prisonnier vivant que j'ai pu interviewer, qui me dit qu'il s'appelle Mohamed Agel Mouloud.
Bamako, 13h55 minutes ici, 13h04 minutes Bamako.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Un séisme a secoué très tôt cet après-midi le Népal, déjà dévasté il y a 2 semaines par un tremblement de terre, sèmant la panique dans la capitale Katmandou. Cette dernière secousse a fait ce mardi au moins 35 morts et plus de 1100 blessés selon le ministère népalais de l'Intérieur, Nicolas Pinault.
Il était midi et demi, heure locale, quand la terre s'est mise à trembler à nouveau à 76 km à l'est de Katmandou. Selon l'Institut américain de géophysique, le séisme était d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti à New Delhi en Inde et provoqué l'effondrement de bâtiments au Tibet. L'aéroport de Katmandou, porte d'entrée principale de l'aide internationale, a rouvert après avoir été fermé quelques heures par précaution. Même si cette dernière secousse ne semble pas aussi grave que celle du 25 avril, les habitants de la capitale népalaise ont été pris de panique. à l'idée que ces nouveaux séismes entraîneraient l'effondrement de bâtiments déjà très endommagés. La police népalaise a exhorté la population à rester à l'extérieur et à éviter d'encombrer le réseau mobile. Je vous rappelle que le séisme du 25 avril a tué au moins 8000 personnes au Népal et une centaine en Inde et en Chine. Des dizaines de milliers de Népalais sont aujourd'hui sans abri.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine dans la cité balnéaire de Sotchi. C'est la première visite du chef de la diplomatie américaine en Russie depuis que les relations se sont détériorées entre Washington et Moscou pour de sérieux désaccords sur l'Ukraine et la Syrie. Félicie Passy-Zembrou.
Avant de rencontrer Poutine, John Kerry a eu des entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pendant plus de 4 heures. C'est la première rencontre au plus haut niveau entre les États-Unis et la Russie depuis le début de la crise en Ukraine à la fin de 2013. Le département d'État américain a précisé que le chef de la diplomatie américaine et le président Poutine discuteraient d'une gamme complète de questions bilatérales et régionales, dont l'accord nucléaire avec l'Iran, le Yémen et la Libye, dans le cadre d'un effort continu pour s'assurer que les vues des États-Unis soient clairement transmises. Kerry pourrait avoir testé la volonté de M. Poutine de faire respecter par les séparatistes pro-russes en Ukraine, l'accord de cessez-le-feu fragile et prendre le pouls de l'étendue du soutien de la Russie au président syrien Bachar al-Assad, dont les forces ont subi récemment des défaites après un peu plus de 4 ans de guerre civile. Les États-Unis veulent une transition politique pour mettre fin à 45 ans de règne familial à Damas. Le voyage de Kerry intervient à un moment où les relations entre Washington et Moscou ont chuté à des niveaux équivalents à ceux d'après la guerre froide, sur fond de désaccord au sujet de l'Ukraine et de la Syrie. Cette mission semblait conçue, selon toute vraisemblance, pour maintenir le contact que toute autre chose.
Au Yémen, au moins 69 personnes ont été tuées par des explosions dans un dépôt d'armes proche de Sanaa, déclenché par des raids aériens de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles yéménites. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui à l'AFP un responsable de la santé. Des avions de la coalition ont bombardé à plusieurs reprises le dépôt situé sur le mont Nogom, une montagne surplombant l'est de la capitale yéménite, ont indiqué des habitants, ajoutant que les raids se sont produits par intermittence jusqu'en milieu de journée. Les explosions provoquées par les premières raids lundi soir étaient si intenses qu'elles ont fait s'envoler des pièces d'artillerie, avaient rapporté des témoins. Les militants anti-régime syrien fulminaient aujourd'hui après une conférence de presse durant laquelle le drapeau de la révolution a été écarté à la demande de Louaï Hussein, qui faisait partie jusqu'à présent de l'opposition tolérée par Damas. Mais le point de presse M. Hussein, qui a réussi à s'enfuir de Syrie fin avril après avoir été inculpé par la justice, a participé lundi pour la première fois à une conférence de presse à Istanbul aux côtés de Khaled Koca, le chef de la coalition nationale syrienne, principale force d'opposition en exil, pour discuter d'une vision commune de l'après Bachar al-Assad.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et le sport pour terminer, en football, demi-finale retour de la Ligue des champions en Europe, Mousseleur Messienko, tout en marquant au moins 3 buts, tel est l'exploit que doit réussir le Bayern de Pep Guardiola face au FC Barcelone ce soir à Munich pour entretenir le rêve d'une finale de Ligue des champions à Berlin. Mais ce scénario s'annonce difficile pour un Bayern de Munich, corrigé 3-0 au Nou Camp lors du match aller. La chute du malheureux Jérôme Boateng, humilié par un crochet de Messi sur la deuxième réalisation catalane, a fait le tour des réseaux sociaux et le défenseur allemand est devenu à son corps défendant le symbole de la déroute du géant bavarois. Et demain, l'autre demi-finale au stade Santiago Bernabéu, le Real Madrid champion d'Europe en titre tentera de remonter son retard de l'aller. La Juventus de Turin l'avait battu à l'aller 2-1. Si le club merengue le plus titré de l'histoire en C1, 10 trophées, parvient à se qualifier ce soir, elle deviendra la première équipe depuis 25 ans à conserver la plus prestigieuse couronne européenne. Vous écoutez VOA Afrique. Merci de nous avoir choisi. Merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur www.voafrique.com et n'oubliez pas de faire un tour sur notre page Facebook La Voix de l'Amérique. Jean-Roger Billon à ce microphone. Prochain rendez-vous de l'information, c'est seulement dans 20 minutes et ce sera avec Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec dans Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info.